Publicité.
Attention, entrepreneurs et professionnels de la comptabilité, il est temps de transformer votre gestion d'entreprise avec Akumbago, la solution web 100% québécoise conçue pour vous. Depuis plus de 35 ans, Akumbago soutient les PME d'ici en vous offrant un écosystème complet pour optimiser chaque aspect de vos opérations. Facturation flexible, gestion des clients, fournisseurs et bien plus. Choisissez le forfait qui vous convient et bénéficiez d'un service de qualité en français depuis le Québec. Visitez dès maintenant akumba.com pour découvrir leurs solutions ou planifier une démo. Akumbago, l'allié des entrepreneurs du Québec.
Bonjour Bruno Guglielminetti.
Jérôme Colombin, bonjour.
Coucou, j'ai oublié de faire toc-toc, comme ça, pour rentrer dans ton podcast.
Arrête, t'es toujours le bienvenu, t'as pas besoin de frapper.
Pareillement, tu es bienvenu dans Monde Numérique pour notre débrief transatlantique hebdomadaire. Bruno, cette semaine, il faut qu'on parle de ce qui est en train, apparemment, de se mettre en place de ton côté de l'Atlantique, en l'occurrence aux États-Unis, en matière de, enfin, ce qu'on appelle chez nous en France de droit à la déconnexion. Explique-nous ça.
Ouais, ça m'a fait penser à vous, puis j'étais curieux de faire le point sur où vous en êtes rendu, parce que ça fait longtemps que ça existe chez vous, mais c'est en Californie, puis ça a fait la manchette dans le Los Angeles Times. Il y avait un article qui a attiré mon attention, et c'est justement, il y a un législateur là-bas qui est en train d'amener ça sur le terrain de discussion, donc un projet de loi qui ferait en sorte que les employeurs ne peuvent pas contacter leurs employés hors des heures de travail prévues selon l'entente là qui les oblige, qui oblige les deux parties.
Ni par téléphone, ni par message, etc.
Quoi. Par rien, mm-hmm. à moins que ce soit vraiment urgent ou à mm-hmm. moins que ce soit quelqu'un qui dont l'emploi dépend et c'est précisé dans l'entente qui régit leur relation, leur lien d'emploi. Mais évidemment, bon, ben, on est aux États-Unis. Je te dirais que même ici, au Canada, ça passerait pas comme une lettre à la poste. Et il y a énormément d'embûches. Et ça m'a fait penser, là, j'ai été dans ma mémoire, et je me suis dit, mais les Français, eux, ils avaient fait quelque chose là-dedans. Alors, je sais que les Allemands étaient les premiers à le faire en Europe. Après, ouais. Il y a la France. C'est 2017-2016, je me souviens très bien.
Tout à fait. En France, j'ai regardé un peu, c'est 2016.
Bon. Mais comment ça se fait depuis? Écoute, ça fait 7-8 ans, là. Est-ce que ça a bougé? Est-ce que les gens vivent bien? Est-ce que maintenant, vous vivez plus heureux?
Alors, les gens vivent très bien en France, hein, de toute manière, d'une manière générale.
Déconnexion
ou pas, ne rayons pas. Je ne suis pas certain que ce soit un sujet dans la mesure où, écoute, j'ai regardé un peu, il y a eu apparemment au moins un procès qui a découlé de ça, hein, en 2018, et il y avait un employé qui a quand même réussi à décrocher 60 000 euros de la part de son entreprise.
Quand même.
Parce que, et oui, on lui avait demandé de rester joignable tout le temps par téléphone, et en dehors de ses heures de travail, alors qu'il n'était pas d'astreinte, comme ça peut arriver, hein.
Il peut y avoir
des métiers, des fonctions comme ça où t'es vraiment d'astreinte, mais là, c'était pas le cas. On lui avait juste dit, bah, écoute, c'est super avec les téléphones, tout ça, machin, où que tu ailles, s'il y a un problème, on t'appelle. et voilà. Et ça passe pas. Et alors, je sais qu'aujourd'hui, je pense que dans les entreprises, c'est quand même les employeurs font très attention à ça. Ils font très attention. Il y a beaucoup de salariés qui sont, aussi très vigilants, est-ce qu'on les embête pas? Mais maintenant, la situation a changé. D'abord, ça dépend des secteurs. Hein. Mm-hmm. Je pense que dans le numérique, dans les startups, etc., c'est un peu le contraire. Dans le journalisme, on a une vision complètement déformée parce que par définition, on est joignable tout le temps.
24 heures sur 24.
Ouais. 24 heures sur 24. Alors, il y a quand même aussi un peu un droit à la déconnexion, un droit à des vacances. Ouais. Faut pas exagérer. Hein, c'est pas l'esclavage non plus. Pour répondre à ta question, si tu veux, à ma connaissance, ce n'est pas un gros sujet de friction, mais ça a été finalement bien intégré par tout le monde. Mais là où ça a changé aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils qui permettent de nous déconnecter. Tu peux avoir ton WhatsApp et tu le mets en ou autre, tu le mets en sourdine. Les mails, tu n'es pas obligé de d'y répondre, etc. Là où tu peux éventuellement faire jouer la loi, c'est si on te reproche ensuite de ne pas avoir répondu alors que tu étais en dehors de tes heures de travail, quoi, finalement.
Ah ouais.
Mais vous, au Canada, ça se passe comment? Il y a une réglementation?
Ben écoute, je voulais juste être certain de pas être à côté de mes souliers et j'ai cherché. Et il y a seulement en Ontario où aujourd'hui il y a une législation qui encadre les communications hors des heures de travail. Mais sinon, partout au Canada et particulièrement au Québec, c'est encore le Far West. Donc, un employeur pourrait contacter l'employé hors de ses heures de travail pour faire un suivi de dossier et il serait pas embêté par la loi.
Ouais.
Sauf que, un peu comme chez vous, Je pense que toute votre démarche et tout ce qui a été dit autour de ça a fait réfléchir des employeurs et les grands noms, les grands employeurs, eux, maintenant encadrent dans le cadre de l'hygiène de vie. Là, ça fait partie de la marque employeur, hein, la qualité de vie au sein d'une organisation.
Tout à fait.
Eux ont mis en place des lois. Je pense notamment, hein, j'avais été surpris à un moment donné, je pense que c'était à Radio-Canada, l'équivalent de Radio France, où à un moment donné, j'avais reçu un courriel d'un recherchiste et puis je suis venu pour lui répondre et il y avait une note qui était apparue en disant ben, la personne ne recevra pas votre courriel avant telle heure. Je dis c'est intelligent. Ouais. Voilà.
Dis-moi, c'est quoi un recherchiste, Bruno?
C'est quelqu'un qui aide à la préparation aux émissions.
D'accord.
Ça peut être un animateur qui est à l'antenne et il va être appuyé de gens qui font de la recherche pour l'aider.
Okay. On appelle ça attaché de production, nous.
Mais nous, on les attache pas. C'est ça la différence.
Non, mais c'est vrai. Ouais. Chez nous, ils sont enchaînés. Donc, c'est ça aussi, l'explication des termes.
De là, la qualité de la vie en France.
Tout à fait. La boucle est bouclée, exactement. Vivez enchaîné, vivez heureux. À part ça, Bruno, autre sujet dans l'actu qui a frappé ta sagacité légendaire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Apple et on en parle même quand il se passe rien.
Ben oui, mais c'est ça. Puis moi, j'ai l'impression, toi, t'es assez dubitatif toi, quand vient le temps de parler d'Apple, parce que t'as toujours ton esprit très critique qui arrive à la rescousse.
Non.
Et là, regarde, il y a cette histoire qui a été sortie par Bloomberg cette semaine et qui est en train de raconter que, maintenant qu'ils ont mis de côté la next big thing, qui était l'automobile sur laquelle ils ont travaillé pendant 10 ans, Apple est en train de se chercher une nouvelle niche. La nouvelle niche, ce serait dans le domaine du robot personnel.
Du robot personnel, ouais, j'ai vu ça. Mais
puis là, il y a deux trucs. D'abord, moi, j'ai appris en écoutant le journaliste de Bloomberg, mais aussi en faisant mes recherches, que par exemple, le Vision Pro, ça vient de travaux qui avaient été faits dans le cadre de l'équipe automobile parce qu'ils travaillaient à voir comment ils pouvaient intégrer l'air et le VR à l'intérieur d'une voiture automobile.
D'accord.
Donc, les travaux ont mené au développement du Vision Pro, ça c'est intéressant. Et donc, toute la démarche au niveau de la robotisation, mais personnelle, fait aussi partie de ce travail-là. Et notamment, l'équipe avait développé une version. Imagine un iPad, mais de taille plus importante, qui aurait un bras robotisé que tu attrapes sur le bord d'un comptoir ou d'une table.
Ouais.
Et donc, à partir de ce moment-là, tu lui dis où tu veux ton iPad. Et en fonction de ta situation, il ajuste en temps réel la tablette. Bon, comme ça peut sembler banal. Mais si tu fais de la vidéoconférence avec ton iPad, peut-être que là, ça peut être important. Et là...
La vidéoconférence, je te signale que tu as la fonction de suivi du visage, du mouvement et même du mouvement du corps qui se fait maintenant mais de manière logicielle
Imagine si en plus tu avais le bras mécanique qui te suit, alors là tu peux vraiment te déplacer de façon importante là dans la pièce. Ça c'est une chose. Puis l'autre piste sur laquelle ils sont
sur un drone et que ça peut pas voler dans les pièces, je pense que ça n'a pas grand intérêt.
Et l'autre piste sur laquelle ils sont en train de travailler, ce serait un robot de plus grand gabarit quand même qui pourrait te suivre dans la maison. Là, faut pas être paranoïaque. Et qui pourrait aller jusqu'à faire la vaisselle, imagine. Alors, si t'as pas de la vaisselle, t'imagines, toi, tu peux laisser ta vaisselle sur le comptoir, il la prend, il la lave.
Mais franchement, mais tu y crois, ces rumeurs-là?
Le robot avec la vaisselle, non. La possibilité de pouvoir rentrer dans le marché niche du robot personnel, il y a tellement d'aura autour de la marque d'Apple. Moi, j'ai l'impression que s'ils arrivent à développer, un petit bonhomme, un petit robot qui a l'air sympathique, qui peut faire des choses, moi, je suis sûr qu'il y a des millions de ces petits appareils-là qui vont se vendre. Évidemment, c'est une question de prix, là, mais bon.
Mais en théorie, parce que dans les faits, moi, je sais pas, mais j'ai l'impression que Apple serait le dernier à faire un truc comme ça. Parce qu'il y a déjà des tentatives. Il y a Amazon qui a son robot. Il y a Samsung. Qui a présenté deux fois son petit robot boule Bali, qui est toujours pas commercialisé. La deuxième fois, il était déjà plus gros, ce qui montre que pour aller vers quelque chose de concret, il a fallu sans doute mettre plus de composants que prévu.
Et il commence à ressembler de plus en plus à R2-D2, dans ses fonctionnalités.
R2-D2 ou à l'autre créature là qui roulait dans
Star
Wars.
Moi j'aime mieux R2-D2 avec sa façon de parler sa projection de vidéo qui a été tournée.
Toi, t'es de la génération de la première trilogie. Moi, qui suis beaucoup plus jeune, c'est les trilogies suivantes. Je sais plus comment il s'appelle, le robot boule. Mais il y a d'autres choses.
Ah, c'est B, B,
Oui,
Bibi,
je sais pas quoi. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent,
ils ont percuté.
Mais enfin, Bibi Q, Bibi One, je sais plus, je me souviens plus, Bibi quelque chose. Et en France, on a des petits robots, nous, d'accompagnement comme ça. On a Pepper, qui est un petit robot avec des jambes. On a Buddy, qui est une espèce de grosse boule avec une tête et qui peut te suivre dans la maison. Mais ça n'a jamais été des grands succès. C'est très compliqué à faire. Ça apporte pas énormément de choses parce que tout ce qu'ils peuvent faire au mieux, c'est se déplacer, te suivre, faire de la vidéosurveillance quand t'es pas là. Mais dès que tu veux leur mettre des bras pour porter des choses, ça devient beaucoup plus compliqué en termes de prix, d'autonomie, de prix, etc. Puis voilà, il y a le robot Optimus.
Ah ouais, mais
Tesla,
c'est déjà autre chose.
Mais c'est déjà autre chose. Mais je vois pas Apple aller sur ce genre de gadget qui, je sais pas. Tout est possible. Mais je me demande, c'est pas aussi une manière de recycler tous les ingénieurs qui travaillaient sur la voiture et de leur trouver une occupation aujourd'hui.
Tu penses à tous les brevets qui ont été développés, toute la connaissance qui a été faite, ils doivent recycler. Ils veulent rentrer un peu
dans
leur argent. Là.
Il faut capitaliser le truc là-dessus.
Ouais. Puis bon, sinon, écoute, c'était BB-8 ou BB-8.
BB-8 hein. Ah, voilà. Très bien. Merci, BB-8. Parfait.
Jérôme, dans mon numérique cette semaine, de quoi on parle?
Dans mon numérique cette semaine, j'emmène mes auditeurs visiter Notre-Dame de Paris, la cathédrale, tu sais, qui a brûlé il y a quelques années, et la visiter de manière virtuelle. Alors, c'est vachement intéressant. Il y a plusieurs animations qui ont été faites. Et là,
c'est une expo?
C'est une expo, mais c'est un truc hyper sérieux, hyper scientifique. Okay. C'est Dassault Systèmes qui a fait ça en collaboration avec le CNRS. Et en fait, ils ont récupéré les travaux d'un Américain qui a été le seul à scanner l'intégralité de la cathédrale il y a plusieurs années avec des lidars, et ils ont récupéré ces données pour en faire un jumeau numérique.
Wow. Donc, on est encore plus loin que ce que Ubisoft avait fait là.
Oui, alors on est plus loin, mais voilà, c'est ce qu'on explique dans l'interview avec le responsable de cette exposition. Si tu veux, c'est un nuage de points, donc c'est pas toujours forcément hyper esthétique, mais en revanche, c'est scientifiquement très fiable, et ça a servi à reconstruire la cathédrale, à savoir à identifier les poutres, les parties du toit, etc., etc. Donc c'est assez intéressant tout ça grâce.
Et est-ce qu'on peut te voir assis dans la cathédrale?
Non, mais on peut me voir avec un casque de réalité virtuelle. Et puis sinon, je parle de navigation GPS, et avec une marque que tu connais bien certainement parce qu'elle a eu son heure de gloire dans le grand public. C'était TomTom. Alors je sais pas si c'était distribué chez vous, TomTom, les navigateurs TomTom.
Oui, mais c'était pas le grand succès parce qu'il y avait
Garmin,
joueurs américains. Exactement.
Etc.,
mais TomTom, donc qu'est-ce qui se passe avec eux?
Eh ben écoute, TomTom existe toujours, déjà. C'est une marque qui existe toujours, mais qui s'est recentrée sur le grand public, sur le professionnel, avec des services beaucoup plus affinés. Et on parle de toutes les évolutions technologiques en matière de navigation GPS. Donc avec
ça, c'était des précurseurs.
Ah ouais, c'était vraiment. Tout le monde avait son petit. Enfin, en France, tout le monde ou presque avait son petit récepteur TomTom. Je suis sûr que tu en avais un chez toi. Ah ben voilà, tu en avais un chez toi que tu me montres à la caméra là.
Eh oui,
magnifique, c'est
un petit TomTom que j'ai mis dans ma bibliothèque, les gens peuvent le voir.
Dans ton dans ton musée des horreurs, j'allais dire.
Bon, écoute, c'était aussi déplaisant, je pense que c'est le temps de te laisser retourner dans ton podcast.
Oui,
et puis
je vais retrouver mes robots. Tu sais que j'ai un robot, une intelligence artificielle qui s'est chargée de la partie actualité cette semaine dans mon
et
numérique.
Et on va pouvoir donc l'entendre.
Ah ben on l'entend, ça y est, c'était juste avant qu'on se parle, et c'est une espèce d'expérimentation technico-journalistique. Voilà, j'attends.
Ouais, est-ce qu'il fonctionne mieux que celui qui essaie de faire le ménage dans ta pièce?
Beaucoup mieux, beaucoup mieux. J'en suis vraiment étonnamment content. Ouais.
Écoute, je te félicite.
Mais on en reparlera, on verra.
Ok. Bon, ben on verra ce que tes auditeurs en pensent.
Tout
alors,
à fait.
Si ça vous intéresse d'aller écouter mon numérique, ben c'est simple. Une fois que mon carnet est terminé, vous allez sur toutes les bonnes plateformes ou vous allez sur mon numérique, puis vous allez retrouver facilement un lien pour aller écouter Jérôme et le suivre dans ses péripéties.
Et pareillement, j'invite les auditeurs de Monde Numérique à aller écouter mon carnet, bien sûr, comme chaque semaine, disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Mon cher Bruno, je te dis à la semaine prochaine.
Je te dis hasta luego.
Hasta luego.